Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Atlas de la biodiversité, un rendez-vous mensuel dédié à l'environnement que j'ai le plaisir d'animer aux côtés de Thomas Boucard, chargé de mission à la transition écologique au service développement durable de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Nous accueillons également par téléphone Camille Cruz, chargée d'études faune à Caudalis, une des structures qui réalise des inventaires des espèces. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors pour rappel, l'Atlas de la biodiversité, c'est le nom de ce rendez-vous radio, mais c'est avant tout une démarche institutionnelle qui implique les communes du Val d'Amboise et qui vise à mieux connaître la faune, la flore et les habitats sur le territoire. Elle se décline en une série d'inventaires et de nombreuses animations dont Thomas vient nous faire part régulièrement. Donc dans de précédentes émissions, que vous pouvez d'ailleurs, je le rappelle toujours, mais retrouver en podcast sur le site Radioactive, nous avons évoqué les points d'étape des différents inventaires des espèces sur le territoire, notamment les chauves-souris, dont le comptage est achevé, je crois, Thomas.
Pour la partie hivernage, oui, des chauves-souris. Il y aura les inventaires chauves-souris reprennent à l'été sur les sites de nourrissage, quand on les observe en vol.
Très bien. On avait également parlé des habitats, et notamment des mares, où on invitait les habitants qui possédaient une mare sur leur terrain à se faire connaître.
Oui, on va pouvoir en parler un petit peu, ça commence là.
Ok. Donc alors faisons-le ensemble, ce point d'étape. Où est-ce qu'on en est des inventaires? Quelles espèces sont concernées en ce début de printemps?
Et ben, là, avec le printemps qui est bien installé maintenant, qui redémarre, on a tous les groupes d'espèces qui sont inventoriés. On a 9 groupes d'espèces, donc qui sont plusieurs groupes d'insectes, la flore, les chauves-souris, vous l'avez dit, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. Je dois en oublier, mais voilà, on a plusieurs groupes et les naturalistes sont en ce moment sur le terrain. On commençait les prospections sur un certain nombre de sites. On en avait 200 pour la phase 1, on en a à peu près autant pour la seconde phase. Donc il y a du boulot d'inventaire.
Oui, évidemment.
Et donc là, ils sont en train d'inventorier tous ces groupes. Et en parallèle, ce qu'on propose, c'est comme on l'avait fait pour les chauves-souris, c'est des petites campagnes participatives à certains moments. Et donc là, c'est sur les mares. Donc on invite les personnes qui vivent sur le territoire et qui ont une mare chez elles à le signaler auprès de la communauté de communes ou auprès de Caudalis. On pourra redonner l'adresse de Camille qui recevra les demandes, du coup, pour que les gens signalent les mares et qu'on puisse ensuite, en fonction de l'intérêt potentiel qu'elles présentent, se déplacer et voir si des espèces remarquables sont présentes sur ces mares.
D'ailleurs, en dehors de cette intervention sur Radioactive, comment les riverains, j'ai envie de dire, sont au courant de ces démarches-là qu'il faut éventuellement signaler qu'on a une mare pour pouvoir justement apporter sa pierre à l'édifice des inventaires?
Il faut suivre notre page Facebook de la communauté de communes. On diffuse les informations. Les associations qui nous accompagnent, donc qui sont 5 associations, pour rappel, il y a Caudalis effectivement, et puis Ligeria Nature, le CPIE, la CEPANT et la LPO Touraine. La LPO Centre-Val de Loire, pardon, qui relaie les informations à leurs bénévoles, à leurs adhérents.
Les référents aussi par commune doivent communiquer auprès.
Toutes les informations sont toujours envoyées aux référents communaux. Donc on a une trentaine de référents communaux, au moins un par commune, qui sont chargés de relayer toutes les informations sur la démarche auprès des habitants de leur commune.
Très bien. Est-ce qu'on a des résultats à communiquer aujourd'hui?
Alors, on a des résultats pour la phase 1, dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Mmh. Donc, on avait eu 11 000 données collectées sur le territoire, près de 1500 espèces recensées. Et là, donc, on n'a pas de données au jour le jour sur la phase 2. Il y aura un bilan, une analyse des données qui sera faite à la fin de la phase, qui interviendra mi-juillet. Et donc là, on aura un bilan complet des deux phases et un nombre d'espèces totales pour le territoire. Suite au travail des naturalistes.
Et du travail, il y en a 1500 espèces, ça fait du boulot à observer, à compter. Alors aujourd'hui, on a Camille au téléphone, Camille Crousse, chargée d'études faune à Caudalis. Camille, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis bien là.
Alors là, vous allez nous parler du focus, enfin vous allez nous faire un focus sur les inventaires reptiles.
Oui, exactement. Parmi les inventaires qui ont débuté là, ce printemps, il y a les reptiles notamment. Et voilà, c'est la bonne période pour chercher les reptiles, donc c'est la bonne période pour en parler.
Alors pourquoi inventorier les reptiles?
Alors pourquoi? D'abord parce que les reptiles, comme toutes les autres espèces, font partie de la biodiversité locale, hein. Que ce soit des espèces très communes comme des espèces rares, toute la biodiversité est intéressante à connaître. Ensuite, parce que parmi les reptiles, il y a certaines espèces qui malheureusement sont menacées, sont rares ou alors sont en voie de diminution, si on peut dire. Donc c'est important de connaître ces espèces-là, de savoir où elles sont. Ensuite, pourquoi? Parce que les reptiles, ils font partie d'écosystèmes qui sont plus ou moins équilibrés. Donc ce sont des prédateurs et donc leur présence participe à l'équilibre de la chaîne alimentaire et de tout un tas d'autres espèces. Et puis peut-être une dernière raison, c'est qu'on parle de la connaissance et connaître, c'est ensuite préserver. Et donc quand on sait à quel endroit se trouvent les reptiles, se trouvent les espèces, ensuite derrière on peut adapter notre gestion, notre entretien de nos jardins, de nos potagers et de toutes sortes de milieux pour faire en sorte d'être plus favorable aux reptiles.
Alors quelle méthode on utilise finalement pour faire l'inventaire de ces espèces-là? Déjà, est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes, peut-être les plus communes, ce qu'on retrouve dans nos jardins, ce qu'on aime voir ou pas trop parfois même?
Alors nous, en Indre-et-Loire, on trouve d'abord, il y a trois groupes d'espèces en France, et on a les tortues. Donc on a une espèce qu'on trouve en Indre-et-Loire et qu'on a trouvée déjà sur le territoire du Val d'Amboise, c'est la cistude d'Europe. D'accord. Ensuite, parmi les reptiles, on trouve les serpents.
Oui.
Et puis les lézards. Donc sur le territoire du Val d'Amboise, on est plutôt bien lotis parce qu'on a trouvé quand même plusieurs espèces de tout ce petit monde. Donc parmi les lézards, le plus commun peut-être le lézard des murailles, c'est le petit lézard vert qu'on voit souvent sur les terrasses, sur les murets.
Qu'on appelle la lisette, non?
Alors, celui-là, il a plein de surnoms.
Ah, ok. Celui qui perd sa queue quand les enfants l'attrapent.
Exactement, c'est celui-là.
D'accord.
Dans le même thème, qui perdent leur queue quand on les attrape, on a aussi l'orvée fragile. Donc,
ah oui.
Celui-là, c'est un lézard qui a un peu des allures de serpent puisqu'il n'a pas de pattes. Hein. Donc, c'est un tout petit lézard noir ou marron qu'on trouve plutôt près des milieux humides. Et puis ensuite, du côté des serpents, on va trouver les couleuvres, donc des couleuvres plutôt aquatiques par exemple, comme la couleuvre vipérine qu'on va trouver au bord des cours d'eau, ou la vipère aspic qu'on va trouver sur des milieux un petit peu plus secs.
Mmh. D'accord. Alors Thomas, il y a peut-être des questions aussi, parce que je monopolise le micro. mais
Non, moi je suis ça d'assez près au quotidien, donc pour le moment, je n'ai pas de questions.
Bon, moi j'en ai plein. Comment on fait pour les inventorier? Comment ça se passe? Parce que c'est pas évident, ça se cache.
C'est pas facile en effet, les reptiles sont parmi les espèces qui sont souvent très bien cachées et bien camouflés. Et quand on les regarde, en fait, ils ont souvent des couleurs de peau, d'écailles qui sont vraiment faites pour être cachées. C'est souvent leur stratégie d'ailleurs, c'est d'essayer de se camoufler pour pas être vus. Donc ils sont pas faciles à voir. Alors il y a deux grosses techniques. La première, c'est d'essayer de les trouver malgré tout en marchant dans les milieux qui leur sont favorables. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on marche, pas trop rapidement, mais le long des haies, le long des lisières de boisement, dans des friches, près des buissons, voilà, des endroits où on sait que les reptiles vont souvent venir se mettre au soleil pour se réchauffer. Donc voilà, ça c'est une des méthodes, donc elle est plutôt efficace au printemps, c'est la période où on les voit le mieux, il fait beau mais pas encore trop chaud, ça leur convient bien. Et puis la deuxième méthode qui nous permet d'être un petit peu plus efficace, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des plaques. Donc des plaques sont des plaques qui font à peu près 1 mètre carré. Donc on va utiliser soit des tôles, soit des plaques qu'on va découper dans d'anciens tapis de carrière. Donc ça fait des grosses plaques noires qu'on va poser au sol dans des milieux qui sont plutôt favorables. Et en fait, les reptiles, ils vont bien aimer ces plaques parce qu'ils vont venir se réchauffer dessus ou dessous. Et donc nous, après, quand on les cherche, on n'a plus qu'à venir voir la plaque, elle est soulevée, et puis venir voir s'il y a des animaux en dessous.
L'effet de surprise. Moi, je salue hein, toutes ces démarches, parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément sensibilisé de près à toutes ces questions de sauvegarde de la biodiversité, on peut avoir tendance à avoir peur. Mais ce que je propose, c'est qu'on revienne sur ces idées un petit peu préconçues sur les reptiles juste après une petite pause musicale et que vous nous en disiez plus sur les éventuels dangers aussi de la présence des reptiles.
Avec plaisir.
À tout de suite.
Tombe du ciel la lune qui suffit à mes pas. Il me guide, appréhende peu à peu le fracas dominant de la rumeur des villes. Glisse ma silhouette dans le noir qui habille mon élan. Il m'inquiète et m'envoie ses plus fidèles peurs. Elles me traquent, c'est leur job et mon pas s'accélère. Un réverbère me salue, je lui réponds un peu fier. Toi tu connais la nuit qu'à travers ta lumière. Je lui éclate une ampoule, il découvre le noir et me chiale dans les pattes, moi le chat de gouttière. Miaou. J'ai perdu ma minette, moi le mine des villes. J'ai perdu ma vie quand m'a mis ma minette tête dehors de chez elle, loin du petit lait, du poêle à pétrole et du fauteuil en lin. Maintenant dans la rue, moi je me suis fait ma place. Mes coussinets sont durs et imbibés d'essence. Mes griffes acérées pour tailler mes défenses. Car dehors c'est la guerre et pas qu'entre châles. Les coups de balai cognent dans tous les angles. Pourquoi font-ils ça? Là, je donne ma langue. Samedi au marché où je vole mes sardines, j'ai croisé une belle noire et j'ai lu dans ses billes qu'elle aussi était seule et qu'un jour elle espère pouvoir chasser à deux les oiseaux de gouttière. Je déferle dans les rues, je cherche ma féline, mon matou, ma maline, la reine des siamois, je serai son super cat, elle mon héroïne. D'un coup la voilà, près de moi se glisse, mes poils s'hérissent, elle s'appelle divine et sous mes yeux humides rougissent mes babines. Tombe du ciel la lune qui suffit à nos pas, il nous guide atténue peu à peu le fracas dominant de la rumeur des villes.
De retour sur l'antenne de Radioactive 94.7, vous êtes toujours dans l'Atlas de la biodiversité, un rendez-vous mensuel dédié à l'environnement. Je suis toujours aux côtés de Thomas Boucard, chargé de mission à la transition écologique à la CCVA. Ça va toujours, Thomas?
Très bien, merci.
Il n'est pas parti, il est toujours là, donc tout va bien. Et nous avons toujours par téléphone Camille Cruz, chargée d'études faune à Caudalis. Toujours là, Camille?
Toujours là également.
Donc juste avant cette pause en musique, nous étions en train de parler des reptiles, une espèce qui est inventoriée et les techniques aussi pour pouvoir les observer et les inventorier. On n'a pas rappelé ce qu'était un reptile.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé des reptiles, mais on n'a pas vraiment redit, même si on connaît tous hein, quelques reptiles. On a parlé d'une chose importante tout à l'heure, c'était le fait que les reptiles aimaient se mettre au soleil pour se réchauffer. C'est une caractéristique hein, des reptiles, c'est que contrairement à nous, ils n'ont pas la température du corps qui est constante. Elle varie avec la température du milieu extérieur. Donc pour ça, en fait, chaque espèce va avoir besoin de trouver sa température optimale hein, pour avoir des fonctions vitales qui vont fonctionner correctement. Mmh. Et donc pour ça, la technique la plus efficace, bah, c'est de s'exposer au soleil pendant plusieurs heures selon les espèces pour pouvoir gagner en température. Voilà, donc ça, c'est vraiment une caractéristique des reptiles. Ensuite, un autre point important, c'est qu'ils ont la peau recouverte d'écailles. Voilà, c'est quand même pas rien. Mmh. Des écailles hein, qui vont leur servir de protection et puis qui vont aussi leur servir à maintenir l'eau à l'intérieur du corps. Hein, puisque ce sont parfois des espèces qui vivent dans des milieux secs, donc c'est important de conserver l'eau au maximum. Voilà, puis peut-être dernier point, c'est que les reptiles font partie des vertébrés. Donc ça, c'est un point commun avec nous. Les vertébrés, ce sont les animaux qui ont un squelette interne, une colonne vertébrale.
Mmh. Est-ce qu'il y a que les reptiles qui muent ? Non, il y a des espèces d'insectes aussi. La mue, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux reptiles ?
Non, la mue, c'est pas spécifique aux reptiles. Après, c'est vrai qu'on retrouve souvent des mues de reptiles et c'est parfois impressionnant, hein, surtout les serpents qui vont muer tout d'un coup. Mmh. Donc quand on retrouve toute la mue entière, c'est impressionnant, mais... Mais non, en fait, c'est pas les seuls à muer, puisque finalement, même les mammifères finalement, qui vont perdre leur poil hein, selon les saisons, c'est le même principe. Mmh. Hein. Les oiseaux qui vont changer leur plumage. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est le même processus un petit peu.
Voilà.
Ouais. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces de reptiles qu'il y a sur le territoire et peut-être à l'échelle aussi de notre département ?
Alors, sur le territoire, si on prend la France métropolitaine, seulement il y a une quarantaine d'espèces, donc en comptant tortues, serpents et lézards, y compris les tortues marines, hein, du coup, si on part plutôt des côtés de nos côtes. Mmh. Sur le département, on a un petit peu moins d'espèces, hein, c'est normal. On a 6 espèces différentes de serpents, 4 espèces de lézards et puis une espèce de tortue, la cistude d'Europe.
Ah, c'est vrai que la tortue, je suis plus surprise, moi. On n'imagine pas avoir des tortues comme ça en liberté, qui prospèrent dans la nature. Enfin, on croise rarement une tortue quand on se promène.
Non, c'est vrai que c'est assez rare. La cistude d'Europe, elle est présente en France, elle est présente en Indre-et-Loire, mais en petits effectifs, si on peut dire. Hein. C'est pas une espèce qu'on va croiser tous les jours en se promenant... au bord des étangs, qui sont pourtant ses milieux de vie, mais elle est là. Hein, la cistude, c'est l'unique tortue d'eau douce que l'on a dans la région. Hein. Donc, je parle unique tortue d'eau douce indigène, en fait. Indigène, ça veut dire que c'est vraiment son milieu d'origine.
Ah oui.
À la différence d'une autre tortue, qui est la tortue de Floride, qui, elle, est une espèce exotique qui a été introduite, et donc qui ne devrait pas être là. Mais la cistude d'Europe, c'est bien une cistude, une tortue de chez nous, même si on la voit pas souvent en Indre-et-Loire, voilà, elle est présente sur les étangs et sur les prairies à proximité, donc c'est possible d'en voir.
Et les tortues de Floride que vous évoquiez, qui sont les petits animaux de compagnie assez sympathiques et qui peuvent lasser et se retrouver dans la nature, elles sont répertoriées aussi pour se rendre compte un petit peu du fléau ?
Alors nous, en tout cas, sur cet atlas de la biodiversité, oui, on les note puisqu'on note toutes les espèces exotiques envahissantes. Hein, c'est comme ça qu'on les nomme, que l'on va trouver. Parce que oui, c'est important de connaître aussi la répartition de ces espèces-là pour un peu se rendre compte de leur impact. Donc oui, on les note bien sûr.
Elles sont quand même pas plus nombreuses que les tortues indigènes qui sont dans leur véritable milieu.
Malheureusement, si, généralement, elles sont plus nombreuses, on en voit assez facilement, hein, même dans les villes, dans les bassins, dans les bassins des villes, les tortues de Floride, elles sont vraiment très nombreuses, et on en voit beaucoup plus facilement que les cistudes d'Europe.
Alors justement, on comprend qu'il y a des espèces qui sont... c'est important de pouvoir les préserver, notamment ces tortues-là. Comment on peut contribuer à préserver des espèces, et notamment des espèces de reptiles, puisque c'est le thème d'aujourd'hui ?
Je pense que le meilleur moyen de contribuer à la préservation de ces espèces, c'est de contribuer à la préservation de leur milieu de vie. parce que bien souvent, ces espèces-là, elles diminuent parce qu'on va modifier, on va abîmer ou faire disparaître leur habitat naturel. Donc en fait, il y a des petits trucs plus ou moins faciles à mettre en place pour pouvoir conserver leur habitat, leur milieu de vie, en tout cas pour avoir des milieux qui leur sont favorables. Donc ça peut être agir sur son jardin, sur son potager, sur une mare, sur des friches. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour accueillir plus facilement les reptiles. Par exemple, dans son jardin, on peut laisser des zones non tondues, des zones qui vont leur permettre de s'abriter, en laissant des tas de bois, des tas de pierres, en laissant des zones d'arbres et de haies, par exemple.
Ce qui n'est pas favorable qu'aux reptiles, en plus on peut le souligner, c'est que ça va aider à un certain nombre de groupes d'espèces et d'espèces.
Exactement, bien souvent quand on commence à faire quelque chose pour une espèce, en fait ça va se répercuter sur beaucoup d'espèces. Ça c'est sûr que de laisser des zones non tondues ou alors de tondre tardivement en saison, à la fin de l'été par exemple, ça va avoir un impact favorable sur beaucoup beaucoup d'insectes et puis derrière sur toute la chaîne alimentaire en fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire dans son jardin, même juste devant chez soi, pour aider les reptiles. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire, je pense, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'en parler, c'est d'expliquer, de montrer, d'essayer de casser un petit peu cette image négative qu'on a souvent des reptiles et puis cette peur en fait d'espèces qu'on connaît pas bien, pour éviter tous les coups de pelle, si je peux dire comme ça, et tous les individus qu'on va tuer parce qu'on a peur quand on les trouve devant sa porte ou dans son jardin.
Oui, c'est de lutter contre les idées reçues et puis de rappeler que c'est des animaux qui sont des espèces protégées.
Exactement, tous les reptiles, tous les reptiles sont protégés par la loi française. Donc oui, ce sont des espèces protégées et on ne peut pas détruire ou détériorer l'habitat d'une espèce protégée comme ça.
D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on risque si on met un coup de pelle justement sur la tête de la spie qui est dans le jardin.
Alors qu'est-ce qu'on risque?
Faut être vu.
j'ai pas la connaissance de toutes les peines possibles, mais c'est une espèce protégée, donc forcément là on rentre dans le cadre du délit et donc c'est quand même quelque chose de grave de détruire une espèce protégée. Après je pourrais pas vous dire la peine précise. Mais c'est surtout très dommageable pour l'espèce, pour les vipères par exemple, qui font peur. Ce sont elles qui font peur souvent. Et puis sont les vipères, du coup, elles régressent dans beaucoup de départements, et surtout à cause de ça, de leur mauvaise image.
On peut peut-être souligner aussi l'utilité de ces animaux, en fait. Enfin, d'une part pour l'écosystème, et puis d'autre part pour nous. Comme le rappelait Camille, ce sont des prédateurs, donc ils contribuent à réguler notamment les populations de petits mammifères qui peuvent avoir un impact sur les cultures, etc. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Camille, mais...
Non, exactement. C'est sûr qu'on peut parler aussi de leur utilité. C'est un animal qui fait partie de la chaîne alimentaire, ce sont des prédateurs, et donc ils participent au bon équilibre à la fois des écosystèmes, et puis oui, bien sûr, si on parle des cultures, pour notre côté, notre point de vue humain, les reptiles, ils vont manger quand même pas mal de petits rongeurs, et donc bien sûr ça peut être un auxiliaire pour les cultures.
Finalement, c'est quoi le danger alors d'avoir parce qu'on peut malgré tout pas occulter le côté dangereux de la vipère en l'occurrence. On en parlait l'autre fois avec Philippe Degnaud, on l'avait évoqué en quelques lignes dans une émission, mais c'est si on la dérange finalement qu'elle va se défendre. Enfin, elle va pas attaquer, elle va pas nous sauter dessus, elle va pas... Mais non, mais c'est Thomas qui rit, mais...
Vous avez raison de le rappeler, parce que c'est une vraie peur, Et donc, c'est bien de le rappeler, hein, c'est la vipère aspic, hein, c'est le seul serpent venimeux qu'on ait, nous, en tout cas en Indre-et-Loire. Hein. Il y a 6 espèces de serpents en Indre-et-Loire, 5 couleuvres non venimeuses, la seule qui l'est, c'est la vipère aspic. Donc, la première chose, ben, c'est, si on peut, c'est d'essayer d'apprendre à les reconnaître, en fait. En regardant sur Internet, en regardant dans les livres, en participant à des sorties. Bon, c'est sûrement plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà, il y a quelques petits trucs pour arriver à reconnaître la vipère aspic des autres serpents, des couleuvres que l'on a chez nous. Ensuite, la vipère aspic, bien sûr, elle est venimeuse, mais le risque, finalement, de morsure, il est vraiment là que si elle se sent menacée. Elle ne va pas venir vous attaquer, va pas sauter à la gorge, ça c'est sûr que non. Sa stratégie de défense, comme on le disait tout à l'heure en parlant des écailles, je crois, elles ont vraiment une coloration qui est faite pour se cacher, se camoufler dans la végétation. Donc elles, leur stratégie première, c'est de ne pas bouger. Si vous passez à côté, elle va essayer de tout miser sur son camouflage et de se dire « on ne me voit pas, on ne me voit pas ». Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être la fuite. Nous, c'est ce qu'on voit souvent, hein, quand on les cherche et puis qu'on passe un petit peu trop près, qu'on a un petit peu trop dérangé, hop, souvent, on voit la vipère fuir devant nos pieds. Donc, voilà, le mieux, bah, c'est d'essayer de rester calme et puis de détendre. Elles ne vont pas attaquer, sauf si vraiment elles se sentent menacées. Donc, je pense que finalement, les soucis arrivent lors d'accidents, en fait, hein, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des morsures, c'est sûr. Et souvent, c'est lors d'accidents, parce qu'on va poser un pied au mauvais endroit, ou qu'on va être pieds nus, peut-être, hein, dans le jardin, sur un endroit où peut-être les vipères sont là.
Et c'est vrai que quand on est dans le jardin, on évite d'aller pieds nus dans les friches. On laisse ça aux spécialistes qui font des inventaires et qui n'y vont sûrement pas pieds nus, d'ailleurs.
Et non, non, nous, on n'y va pas pieds nus. Souvent, on a les chaussures, le pantalon, plus pour d'autres espèces, d'ailleurs, que pour les vipères. Hein. Mais oui, il y a quelques précautions à prendre. Et puis, bien sûr, on ne prend pas un serpent à la main si jamais on en voit un. Voilà, c'est des petites choses... à éviter.
Alors, il y a une vieille légende qui dit que quand on voit un lézard vert, il y a une vipère pas loin. Est-ce que c'est encore des idées qu'on a, ça, qu'on entendait dire par nos grands-parents?
Je pense que la légende est là parce que les deux affectionnent des milieux qui sont un petit peu similaires et qui vont aimer se mettre en bord de haie, en lisière, pour venir se chauffer. Donc c'est possible de les trouver au même endroit. Après, si aujourd'hui on trouvait une vipère aspic à chaque fois qu'on trouve un lézard vert, je crois que nous, on serait très contents. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Les lézards verts, ils vont encore bien pour le moment. On en trouve quand même assez facilement. C'est vraiment pas le cas des vipères.
On les repère un peu plus vite, par contre.
Le lézard vert, oui. Et puis souvent, les lézards verts sont pas très discrets quand ils s'enfuient. Hein. Ils font beaucoup de bruit.
Alors, je voyais en préparant l'émission qu'on pouvait, saisir des observations directement en ligne sur une plateforme que vous avez en ligne, observation.org, je me trompe?
Non, c'est ça, exactement. C'est très pratique, hein, ces sites en ligne. Vous avez juste, en fait, à vous inscrire, à créer un compte. Et puis après, ben, vous pouvez rentrer vos observations de toutes les espèces de faune et de flore. Vous pouvez y joindre des photos aussi, si vous avez des doutes notamment. Comme ça, nous, après, ça nous permet derrière de vérifier. Et puis oui, comme ça, après, les données apparaissent en ligne et puis apparaissent dans les bases de données, ensuite, même au niveau national, au niveau du Muséum d'Histoire Naturelle.
Et pas que pour les reptiles, hein. On est d'accord que là, on a focusé sur le reptile, mais c'est valable pour toutes les espèces.
Exactement, pour toutes les espèces, des plus connues aux plus mystérieuses. Si vous vous intéressez à certaines espèces qui sont très peu connues, il ne faut pas hésiter non plus. Hein. C'est valable pour tout, tout, tout.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Camille.
Merci à vous.
On va vous laisser retourner à vos occupations et puis on va demander à Thomas de nous parler un petit peu de l'agenda des manifestations à venir.
Oui, dans le cadre de l'Atlas de biodiversité, on développe plusieurs animations tout au long de la démarche. Et la prochaine, ce sera une participation au festival Manger Sain et Local qui est organisé par la MSA sur le territoire, qui aura lieu au lycée agricole et viticole d'Amboise le 13 mai prochain, le samedi 13 mai, toute la journée de 9h à 18h. Donc c'est une journée sur l'alimentation avec un marché de producteurs, plusieurs animations et conférences. Et nous, on sera là avec un petit stand de présentation de l'Atlas pour répondre aux questions des visiteurs. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à ce sujet.
On aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de Radioactive puisque Jean-Bernard Guillot, qui est président de l'échelon local de la MSA, viendra en parler sur notre antenne. On est en train de caler justement une date pour pouvoir informer les auditeurs là-dessus. Quoi d'autre, Thomas ?
Après, ce sera en juin et il y aura la deuxième édition du défi biodiversité dans le cadre de l'Atlas biodiversité. Ce sera cette année à Saint-Règle, l'année dernière c'était à Noisé. Ce sera le 3 juin, toute la journée aussi. On est en train de construire le programme, mais ce qui est sûr, c'est que la journée sera consacrée à ce qu'on appelle des inventaires participatifs. Donc, par petits groupes, les gens seront invités, alors de tous âges, et peu importe son niveau de connaissance en termes de faune et de flore, qu'on soit novice ou expert, peu importe, les gens pourront aller en petits groupes avec des naturalistes comme Camille sur le terrain pour observer avec eux les espèces, apprendre à les reconnaître et puis directement contribuer à l'Atlas du coup.
Avec les enfants, c'est faisable aussi ?
Tout à fait, au contraire, c'est ouvert à tous.
Ça fait du bruit, les enfants. Donc
oui,
ça
mais on s'adapte, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs groupes d'espèces, dont les insectes, les plantes, seront moins effrayées par les enfants.
Ce sera moins évident avec un écureuil, mais avec les insectes, pourquoi pas. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour ce point, pour cette émission, cet atlas.
Merci
à Camille qui, je l'entends, est encore avec nous.
Oui, merci à vous.
Et vous êtes bien sûr la bienvenue sur une prochaine émission avec Thomas et moi.
Mais merci beaucoup.
Bonne fin de programme sur Radioactive et à la prochaine édition de l'Atlas de la biodiversité. Au revoir.
Au revoir.